Chers amis, il peut sembler inopportun de parler de laïcité dans un temple de l'Église protestante unie. C'est du moins le commentaire que quelques personnes ont fait en venant voir cette exposition. Qu'est-ce qu'une exposition sur la laïcité fait donc dans un temple? Et puis, les différents panneaux qui présentent la laïcité leur ont permis de comprendre que ce genre de lieu est justement tout à fait concerné par la question de la laïcité. Nous avions l'occasion d'en parler avec Michel Miaille. La laïcité, finalement, c'est un peu comme le temps à la mode de Saint-Augustin. Tant qu'on ne demande pas ce que c'est très clair. Et dès qu'on demande d'en parler, alors là, c'est encore plus mystérieux que la foi. Cela est vrai pour nous, cela est manifestement vrai aussi parfois pour ceux qui nous gouvernent. Et il est assez étonnant de constater qu'actuellement, le ministre de l'Éducation nationale demande finalement à ses enseignants de déroger au principe de la laïcité tel qu'il est prévu par nos lois au sujet des vêtements que portent les parents qui accompagnent les enfants dans des sorties scolaires. Bien, toujours est-il que cela montre que la question de la laïcité mérite d'être pensée sérieusement. C'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Michel Miaille, professeur honoraire de droit et de sciences politiques, qui est un grand connaisseur de la laïcité. Il y a d'ailleurs à votre disposition, à la sortie de ce temple, un ouvrage qui fait référence en matière de laïcité, et puis un autre sur la question de la citoyenneté qui vaut également la lecture. Michel Miaille qui fait œuvre dans les milieux les plus populaires pour que la laïcité soit aussi bien comprise que possible par tous ceux qui constituent notre République. Et donc, nous aurons l'occasion de découvrir l'histoire de la laïcité, de découvrir les enjeux de la laïcité par quelqu'un qui est un grand pédagogue. Et donc, ce sera une soirée pour nous tout à fait lumineuse, j'en suis sûr. Merci Michel Miaille de nous faire l'invité d'être présent ce soir pour cette question.
Mesdames, Messieurs, chers amis, la laïcité, histoire et enjeu. La question de la laïcité nous renvoie immédiatement à deux dimensions qui sont autant de voies d'accès que de causes de difficultés. La première dimension est d'ordre linguistique. Sans vouloir faire trop d'étymologie, il vaut la peine de connaître l'origine de ce mot et toutes les erreurs qui sont commises au moment de sa traduction. Laïque vient du grec laïkos, qui est l'adjectif qui correspond au substantif laos, qui veut dire le peuple. Le peuple conduit comme un collectif assez indifférencié, à la différence des autres mots qui veulent dire le peuple, demos, ethnos, et même au plus. Tout ce qui a trait au peuple peut donc être dit populaire, donc laïque, au sens grec du terme, comme d'ailleurs si vous allez en Grèce, vous découvrirez que la langue populaire, ça se dénomme trapeza laïca. Et donc, nous sommes tous des laïques, puisque nous appartenons au peuple. Mais le nom a une autre origine latine, du bas latin d'Église, qui a distingué les prêtres des laïcs, avec un C. Ces derniers, vous le savez, n'ayant ni la formation, ni l'autorité pour donner des sacrements, d'où le terme des laïcs, encore aujourd'hui, dans l'Église catholique. Pour les protestants, cela va court, je me souviens une parole célèbre d'un président de l'Église réformée disant « Nos laïcs sont majeurs depuis le XVIe siècle ». Cela signifie, si vous voulez, que la laïcité dans cette Église ne concerne que ceux qui n'ont pas été ordonnés prêtres. D'où, dans le peuple catholique, une partie seulement pourrait être dénommée les laïcs, et non pas les laïques. Ce qui peut supposer dans l'imaginaire populaire que donc le laïc, c'est quelqu'un qui est séparé des clercs, peut-être même contre les clercs, peut-être même athée. D'où la confusion aujourd'hui qu'on n'imagine pas qu'un laïc, puisse avoir des convictions religieuses, tant il apparaît évident qu'un laïc, c'est quelqu'un qui est en dehors de la religion. Et cette confusion, elle est grave évidemment aujourd'hui, parce qu'elle prouve un certain dogmatisme et surtout une méconnaissance complète du mot qui nous concerne. La deuxième dimension et la deuxième difficulté, c'est que la laïcité appartient évidemment au domaine de l'idéologie la plus développée. On voit bien comment, si on voulait revenir à l'affaire Dreyfus, à cette image célèbre d'une famille qui se déchire parce qu'il y a les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards, et vous le savez, le titre c'est « Ils en ont parlé ». Eh bien, on pourrait faire la même chose à propos de la question de la laïcité. Les débats pour le titre à l'affrontement, chaque parti étant persuadé d'avoir raison. C'est que le principe de laïcité touche à la fois à des analyses sur ce qu'est la société, ce qu'est la place des églises, ce qu'est le comportement des agents publics, et puis de chacun d'entre nous. Et donc une discussion sur la laïcité tourne rapidement à l'évocation d'un certain nombre d'éléments de la société actuelle, dans toutes les dimensions, et au fil de la discussion, on voit arriver l'immigration, sur les moins distingués des Arabes, et de fil en aiguille, la loi, le procès des juges, l'insuffisance des contrôles, l'immigration qui se développe sans aucun contrôle, bref, tout le caractère anxiogène de ce qui n'a rien à voir avec la laïcité. Et au fond, dans ce désordre de l'écheveau de pensée ordinaire non maîtrisée, on voit bien comment la laïcité est rappelée du côté de la politique, de l'immigration maintenant, quand ce n'est pas les races et les craintes qu'elles vont peser sur l'avenir. Et ces convictions qui se traduisent dans les discussions sont d'autant plus fortes qu'elles sont indéfinies et contradictoire. On sait l'attachement de nos concitoyens à la liberté, surtout pour chacun de soi. On sait l'attachement à l'idée d'ordre, surtout s'il s'applique aux autres. On sait notre attachement à la solidarité, si elle commence par nous-mêmes. En fait, les convictions personnelles brouillent souvent l'analyse de la réalité et surtout la connaissance minimale de ce qu'est le concept de laïcité et de ce qu'est le régime juridique de la laïcité. Je pense, pour vous donner un exemple, à cette personne que je rencontrais et qui faisait état de son trouble devant une société où on rencontrait de plus en plus de femmes voilées et de femmes voilées qui visiblement l'inquiétaient. Mais, comme elle est bonne chrétienne, elle me disait, mais moi je suis très tolérante, j'accepte qu'elle porte le voile. Évidemment, j'ai troublé sa quiétude en disant « Non, madame, vous n'avez pas à être tolérante. Vous respectez la liberté de cette dame, de la même façon que vous avez la liberté de porter le signe religieux que vous voulez. Il n'est pas question de tolérance, il est question de liberté. » Évidemment, confondre liberté et tolérance, c'est un mot qui n'est pas pour parler de la laïcité. Dès lors, cette immersion dans le domaine de la laïcité, immersion dans l'idéologie, dans la manière ordinaire de penser, me paraît être un grand obstacle pour qui veut parler de la laïcité et surtout avec l'espoir d'être compris. Aussi, ce n'est pas par hasard que nous devrions nous souvenir que la laïcité a une histoire. Et que si on ne comprend pas cette histoire qui a précédé la laïcité, on ne peut pas saisir ce qu'elle est aujourd'hui dans notre système social. Et c'est alors que se précisent les enjeux dont ce concept est capable. Je reprends donc, ce faisant, les deux directions qui m'ont été proposées ou imposées. Enjeu après l'histoire appelle de l'histoire. Je vais donc, dans un premier temps, vous parlez d'une histoire hétérogène à propos de la laïcité et dans un deuxième temps des enjeux multiples de la laïcité. D'abord, une histoire hétérogène. Il faut commencer, si j'ose le dire ainsi, par une évidence. L'histoire, ce n'est pas le récit du temps qui s'écoule. Ce n'est pas une sorte de fil qui se dévide de manière continue. L'histoire, c'est un savoir, une des sciences humaines, un savoir qui se construit à partir d'hypothèses qui permettent de comprendre et d'expliquer ce qui s'est passé. Parce que sinon, le récit n'a aucun sens. Il faut donc trouver une construction significative, c'est-à-dire qui apporte du sens, pour que l'histoire de la laïcité puisse nous fournir l'occasion de comprendre ce qu'est ce terme et donc sa place dans notre société. Mon hypothèse, et j'espère que vous la partagerez le temps de cette rencontre, c'est que notre histoire n'est pas une histoire continue, que notre histoire a été faite de ruptures parce que régulièrement, on voit que notre société a changé de ce qu'on pourrait appeler son paradigme fondateur, c'est-à-dire le concept ou la théorie à partir de laquelle on peut penser la société. Le concept qui est au centre de l'univers et qui nous permet, à un moment donné, de rendre compréhensible notre vie sociale. Eh bien, pour nous, dans notre société française, il me semble que nous avons changé trois fois de paradigme. Dans un premier temps, le paradigme constructeur de la société a été la tolérance. Dans un deuxième temps, la liberté. Dans un troisième temps, la laïcité. Et vous voyez dès lors que cette succession n'est pas un fil continu. À chaque fois, on a changé de direction. D'abord, le premier paradigme qui est lié à l'idée de vérité a été celui de la tolérance, qui a surplombé notre société depuis le haut Moyen-Âge jusqu'à la Révolution. Excusez du peu, 10 siècles, et même un petit peu plus. Le système social et politique de l'époque ne se conçoit qu'à partir d'une légitimation de l'exercice du pouvoir qui est donnée par la religion chrétienne, devenue à partir de 380 la religion de l'Empire, donc à la fin du IVe siècle. Et après que l'Empire est disparu, le christianisme catholique, l'Église de Rome, devient la vérité irrécusable pour penser l'humain et la société. Et plus précisément, le gouvernement des hommes. Puisque c'est autour des évêques et des monastères que se reconstitue la vie sociale et pas comme on l'a cru souvent autour des seigneuries. Le mot même de gouvernement qui nous paraît si évident aujourd'hui, savez-vous que c'est un mot ecclésiastique? Au Moyen-Âge, de qui disait-on qu'il gouvernait? De l'évêque, pas du roi ou du seigneur. Le roi dirige, il combat, l'évêque gouverne. Mais pourquoi l'évêque gouverne? C'est parce qu'il tient le gouvernail. Or, qui tient le gouvernail? Eh bien, ce représentant de Jésus-Christ qui, sur la barque, conduit les âmes vers le salut. Je vous fais une petite confidence. Si vous allez à Versailles, dans la galerie des glaces, au droit de ce qui était la chambre du roi, ce qui est toujours la chambre du roi, il y a un cartouche qui représente un concept qui est marqué « Le roi gouverne seul ». Donc, Louis XIV en majesté, assis sur un trône, à l'hommage de ses sujets, et il tend la main dans un signe d'autorité, et de l'autre côté, il s'appuie sur quelque chose. Écoutez les gens qui sont autour de vous. Ah ben, qu'est-ce qui tient? Je ne sais pas moi, une planche peut-être. Non, on ne sait pas très bien ce que c'est. Non. Et les gens ne savent pas que c'est un gouvernail. Il n'est pas ce roi appuyé sur une épée, il n'est pas appuyé sur un sceptre, il est appuyé sur le gouvernail, c'est-à-dire qu'il reprend l'idée que c'est lui qui gouverne, c'est-à-dire qui amènera les âmes, sinon au salut éternel, en tout cas dans la bonne direction sociale. C'est très instructif de voir que le gouvernement est une affaire d'Église et que ce n'est tardivement que le monde basculera dans le domaine politique. Dès lors, cette société vit dans la certitude que les principes divins, disant la vérité de l'Église chrétienne et catholique, ne peut être que la seule voie de conduite de la société. Dès lors, le principe juridique fondamental, qui est celui de la vérité, ne peut avoir comme corollaire que la tolérance, une sorte de bienveillance à l'égard de ceux qui n'ont pas encore reconnu la vérité. La bonté, la grandeur d'âme de ceux qui les gouvernaient permettait d'accepter, au moins temporairement, que d'autres se trompent, dans l'espoir qu'un jour, on les ramènerait à la vraie foi. C'est ce qui a prévalu pour organiser notre société pendant 10 siècles, dès Cathare aux libres penseurs d'avant la Révolution. Au fond, même l'édit de Nantes de 1598 est exactement dans cette perspective. Dans l'attente de l'unité de la vraie foi, je vous cite de mémoire le début de l'édit de Nantes, puisque pour le moment il n'a pas plu à Dieu qu'ils se réunissent en même foi, on peut espérer qu'un jour cela viendra. Vous imaginez de quel côté la vraie foi. Et donc, la tolérance, c'est justement la base qui permet de comprendre la logique de l'édit de Nantes. Et ce n'est pas un hasard si pratiquement un des derniers textes de l'Ancien Régime, 1787, un an et demi avant la Révolution, et c'est trop tard, s'appelle l'édit de tolérance, signé par Louis XVI, qui est tout sauf l'édit de tolérance, mais qui semblait, en donnant un état civil aux protestants, reconnaître d'une certaine manière qu'il existait une autre religion chrétienne. Autrement dit, d'autres ont dit que Louis XVI, à qui on passe la plume pour signer l'édit, au moment où il a signé, se souvient qu'il a juré au moment du sacre de protéger l'Église catholique. Après, se tourne vers l'archevêque de Paris et lui dit « Mais, Monseigneur, est-ce que je ne suis pas en train de reconnaître les hérétiques ?» Et l'archevêque dit « Non, il n'y a rien de ça. » Ah bon, je signe. » Autrement dit, vous voyez que jusqu'à la fin, on est à un an et demi de la Révolution, l'idée de tolérance structure l'organisation de la société parce qu'il y a une vérité officielle et que l'erreur qui est toujours possible ne peut être que tangentielle. Les Juifs, d'ailleurs, ont connu ce régime de la tolérance jusqu'à leur expulsion au XIIIe siècle. Et lorsqu'ils sont revenus, déguisés en marades, on a fait semblant de croire qu'ils étaient convertis. Hypocrisie tout aussi patente que pour les protestants officiellement convertis, et dont on savait qu'ils allaient, comme les ancêtres, se marier au désert. Et ce n'est pas un hasard non plus si, à la fin du XVIIIe siècle, le texte le plus connu, qui a eu un succès de librairie inattendu il y a 2 ans, c'est le traité sur la tolérance de Voltaire. C'est pas un traité sur la liberté, traité sur la tolérance. Autrement dit, du XIIIe au XVIIIe siècle, c'est cette idée qui prévaut. Il y a une vérité, c'est l'Église catholique, mais on a une grandeur d'âme à peine dissimulée et on doit être donc tolérant. Et au fond, ce texte extraordinaire de Voltaire continue de s'inscrire dans ce paradigme de suprématie d'une vérité où la tolérance garde évidemment une place seconde. Et c'est aujourd'hui ce qui nous revient, qu'au fond, il faudrait être tolérant. On voit le retour de cette idée qui a été activée par le retour des ventes après les attentats que vous connaissez du livre de Voltaire, qu'au fond, pour faire coexister les gens ensemble, il faut être tolérant et que l'autorité politique devrait s'engager à pratiquer une politique de la tolérance. Or, ce paradigme de la tolérance, pour moi, il s'est brisé en 1789 et il a fait place au deuxième paradigme, qui est celui de la liberté. Au moment de la Révolution, vont se poser pour différentes raisons les questions des droits des citoyens, qui inaugureraient une nouvelle société, d'où le débat août 1789, juste après le 14 juillet, parce que les paysans avaient cru qu'ils étaient libres et ils mettaient le feu au château, donc pour les arrêter, on a vite fait une déclaration des droits. Et dans cette déclaration, évidemment, il va bien falloir se poser la question de la place et du statut de la religion. En réalité, cette déclaration ne parle pas des religions. Elle parle des sentiments religieux et convictions des individus et des pratiques des groupes au sein de la société à partir d'un nouveau paradigme qui n'est plus la tolérance, mais qui est la liberté. Liberté aussi bien individuelle que collective. Et cela va donner naissance, vous allez le voir, à la fin de l'idée qu'il y a une vérité qu'il faut protéger dans la société et qu'au contraire, chaque groupe et chaque individu peut avoir la vérité qu'il croit bonne, pourvu qu'il ne menace pas l'ordre public. Ce nouveau paradigme, il est inscrit en toutes lettres dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 89. Dans cette journée où a été voté cet article, on n'a pas évidemment tous les renseignements, parce que les scripteurs n'ont pas donné tous les noms quelquefois. On a un certain nombre de grands orateurs qui se succèdent à la tribune, Mirabeau notamment. Et on a un orateur qui nous touche parce qu'il est de Nîmes, qui est le pasteur Rabot Saint-Étienne, dont le père avait été le pasteur sous la persécution, et qui était lui-même pasteur. Et il s'appuie sur une logique imparable pour défendre, dit-il, les droits de ceux qui représentent les Nîmois, qui sont en majorité, en tout cas ceux qui l'ont élu protestant, mais il parle aussi de ce peuple oublié, c'est-à-dire qui demande la même liberté pour les Juifs. Et qu'est-ce que dit Rabot Saint-Étienne ? Je ne veux plus de la tolérance, je veux la liberté. Et je vous cite, puisque le texte m'a été transmis par notre révérend, le texte même du discours de Rabot Saint-Étienne. Mais, messieurs, à l'époque il n'y avait pas de femme élue à l'Assemblée, messieurs, ce n'est même pas la tolérance que je réclame, c'est la liberté. La tolérance, le support, le pardon, la clémence, il est souverainement injuste envers les dissidents, tant il sera vrai que la différence de religion, que la différence d'opinion n'est pas un crime. Et il ajoutait, la tolérance, je ne veux plus de ce mot, et je pense qu'il disparaîtra des dictionnaires un jour. Ce que je veux, c'est la liberté. On ne peut pas mieux exprimer le passage du paradigme de la tolérance au paradigme de la liberté. Lui qui a négocié dans les cabinets auprès du roi Louis XVI l'édit de tolérance un an et demi avant, il sait ce que sont les limites de la tolérance. Il sait ce que cache le mot. Et la révolution, c'est pour lui enfin la construction d'une société sur un tout autre paradigme et il propose cette phrase qui est toujours là dans l'article 10, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Et là, ça a été son proposition. Remous dans l'Assemblée. Remous dans cette Assemblée à 90% catholique. Et des voix vont s'élever parmi les députés pour restreindre la portée de cette liberté. Et un député va faire ajouter, donc, nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. Ce qui aujourd'hui a une résonance tout à fait particulière, mais à l'époque, il faut que vous sachiez qu'il y a des tribunaux royaux qui avaient déjà décidé que le seul fait d'avoir une communauté protestante dans une ville était un trouble d'ordre public. Donc c'était la porte ouverte pour une répression facile sur la base article 10. Heureusement, il y a le troisième larron, si je veux dire, dont on n'a pas le nom, qui a fait ajouter un petit morceau. Ne pas troubler l'ordre public dans les cas déterminés par la loi. Autrement dit, c'est le législateur qui décidera dans quel cas une manifestation trop importante religieuse trouble l'ordre public. Et cela donne l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme qui n'a pas changé depuis et qui a été voté. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Et vous voyez ici que cet article inaugure une société où désormais il n'y a plus de vérité officielle, où désormais une vérité n'est pas opposable à qui que ce soit. Chacun de se faire la vérité de son choix et la servir. Chacun et les groupes qu'il peut constituer pourvu qu'ils ne menacent pas l'ordre public. C'est exactement à quelques mots près l'article 1 de la loi de 1905 de la séparation des églises et de l'État, qui lui est un petit peu précis, alors donc un peu différent. C'est la République et non pas l'absence de référence à l'organisation politique. La République assure la liberté de conscience, elle garantit la liberté de culte sous les seules réserves de l'ordre public. Donc c'est du copier-coller entre 1789 et 1905. Mais ce qui va se passer 10 ans plus tard, c'est que ce paradigme de la liberté, qui est toujours présent sur les frontons des monuments et dans les discours, va être restreint par la vertu de Bonaparte, qui va, parmi tous les cultes, reconnaître des cultes officiels. C'est le grand œuvre, vous savez, du concordat pour l'Église catholique en 1820, puis du statut unilatéralement décidé par Bonaparte des Églises protestantes en 1802, et un peu plus tard, des Juifs en 1808. Alors la liberté de l'œuvre, par preuve, les Églises dites libres, qui refusent d'entrer dans le système de Bonaparte. Mais les églises majoritaires, catholiques, réformées, luthériennes et le culte juif, sont désormais sous l'autorité du premier consul qui va devenir empereur. Celui-ci renoue donc avec la vieille tradition de l'église support de l'État, ce qui a évidemment des avantages pour les églises, entretien des monuments, paiement des ministres du culte, place dans la société et dans la justice. Mais, pour autant, cependant, le paradigme de la liberté, qui est né en 1789, malgré cette expérience impériale, a rejeté définitivement, j'espère dans l'oubli, la vieille formule de la tolérance. Ce sont désormais des droits qui sont acquis par les citoyens et par les groupes, des droits égaux, quelle que soit la condition ou l'absence de condition, qui structure le champ religieux. Désormais, je suis donc contre toute tolérance. Je suis pour toutes les libertés. Et enfin, arrive un troisième paradigme. C'est celui de la laïcité. Il arrive tardivement. On est à la fin du XIXe siècle. Il faut dire que l'Église catholique avait fait tout ce qu'il fallait pour se faire détester par les républicains, et avait tenté, avec un certain succès dans certains cas, de rallier à sa cause une majorité au nombre de la tradition catholique dans ce pays, en prenant des positions qui pourtant étaient de plus en plus contradictoires avec l'évolution de la société. Aussi, la loi de 1905, qui rompt avec ce que Bonaparte avait fait, inaugure une nouvelle société. À l'article 1 de la loi, je vous l'ai dit, qui reprend presque notamment l'article 10, voté en 1781, s'ajoute désormais l'article 2, qui n'avait pas été fait par les républicains, les démocrates de 1789, un article 2 qui énonce « La République ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte ». Ce texte est clair. Désormais, ce n'est plus simplement la liberté qui caractérise la République, et la société civile, c'est le principe de laïcité, c'est-à-dire la séparation claire entre ce qui est de l'ordre du collectif étatique, des services publics, du domaine public et des agents publics, et ce qui est du domaine de la société civile, la société, on pourrait dire, des intérêts privés. Même si le triptyque de la République, liberté, égalité, fraternité, n'a pas changé, le fait que désormais et constitutionnellement la République soit laïque, et même aujourd'hui décentralisée, et même écologique, cela ajoute une dimension nouvelle au régime républicain. Ajoutons, pour être honnête, que l'article 2 prévoit dans son alinéa 2 une exception à la séparation, qui est l'organisation des autonomies. On oublie que dans tous les lieux où les individus sont enfermés, et la proximité des termes que je vais dire fait froid dans le dos, les internats d'école, les prisons, l'armée et l'hôpital. Quatre lieux où on ne peut pas sortir et entrer comme on veut. La République, bonne fille, comprenant que les citoyens qui sont à l'intérieur ne peuvent pas aller au culte, leur apporte le culte là où ils sont. Et c'est le cas des aumôniers d'hôpitaux, d'armées, de lycées, enfin, quand il y a un internat, et prison. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ces aumôniers, se faisant deviennent des agents publics au nom de la République, ils sont donc payés par vos impôts. Ce sont des agents publics. Récemment, un décret, je viens d'écrire un article sur cette question, un décret impose à tous ces aumôniers d'être pas seulement des dispensateurs de leur foi, mais des principes de la République, et notamment de la laïcité. Les aumôniers protestants, on l'a dit, les aumôniers juifs et musulmans non plus, il y a quand même eu des aumôniers catholiques par l'archevêque aux armées, qui a fait un recours au Conseil d'État et qui l'a perdu. Et on lui a expliqué que c'était des agents publics et que, comme tous les agents publics, ils devaient pouvoir répandre les vertus du régime républicain par lequel ils avaient été nommés et par lequel ils étaient salariés. Ainsi, vous le voyez, parler au terme de laïcité, après la seule liberté, c'était ajouter quelque chose, c'est changer de paradigme pour ce qui est de la République en lui donnant une dimension nouvelle, désormais constitutionnelle, à côté de l'adjectif démocratique et social. Pourtant, ce paradigme nouveau comprend des exceptions dont, en général, on ne parle pas trop. D'abord, on a l'exception historique de l'Alsace-Moselle, qui est toujours sous le régime de Bonaparte ou de Napoléon, comme vous voulez, et qui a gardé, après 1918 et après 1944, un statut où les quatre cultes reconnus, catholiques, luthériens, réformés et israélites, sont des cultes officiels de l'État, payés par l'État, entretenus par l'État, où, jusqu'à il y a 2 ans, le blasphème était réprimé, et où les cours de religion sont obligatoires dans les écoles publiques. Tous les efforts pour modifier ce droit local ont jusqu'à maintenant échoué, et de droite comme de gauche, on laisse croire que c'est une partie du droit local indissociable du reste, ce qui est faux juridiquement, et que donc si on enlevait le droit concordataire, tout s'écroulerait. Bref, c'est peut-être ce qui explique que le président de la République ne va jamais en week-end à Strasbourg, parce qu'il est obligé d'aller à la synagogue, au temple luthérien, au temple calviniste et à l'église. Notez qu'il revient béni pour le reste de son mandat. Mais autre exception, les départements et territoires d'outre-mer, où, suivant les cas, un texte tout à fait particulier est applicable. Par exemple, savez-vous qu'en Guyane, la laïcité n'existe pas, elle est sous un régime prévu par une ordonnance de Charles X, celui qui a dit qu'il préférerait être roi coupé du bois que d'être roi d'Angleterre, l'ordonnance de Charles X qui prévoit qu'en Guyane, il n'y a pas d'enseignement laïque. Tout l'enseignement est donné à l'Église catholique et les curés et l'évêque sont entretenus par la République. Nous avons aussi les territoires soumis à ce qu'on appelle les décrets Mendel depuis 1938, les anciennes colonies qui ont un système un peu particulier, la laïcité n'existant que dans très peu de territoires. Et je ne parle pas de Mayotte, où le préfet est obligé de nommer un cadi, c'est-à-dire un juge musulman, qui, sur la base du Coran, traite les affaires patrimoniales. Donc, au nom de la République, on applique le Coran. Ce qui fait que nos voisins européens sont un peu amusés quand nous leur faisons la leçon, en disant qu'on ferait bien de naviguer devant nos territoires d'outre-mer. Ainsi, l'ère de la laïcité a terminé, me semble-t-il, dans cette course, pour le moment, course inégale d'un paradigme de 10 siècles avec la tolérance, d'un siècle à peu près avec la liberté, et maintenant d'un petit siècle de plus avec la laïcité. L'ère de la laïcité, donc, clôt, semble-t-il, le choix de nouveaux paradigmes, y compris, je dirais après, malgré ou avec l'avènement de l'Europe, qui n'apporte d'ailleurs aucune modification à notre système intérieur. Donc, et je conclue, cette première partie, l'histoire nous permet de comprendre que depuis les temps les plus archaïques jusqu'au temps les plus actuels, la gestion des faits religieux a changé radicalement de nature, radicalement de compréhension, en s'appuyant sur des paradigmes aussi différents que la tolérance, la liberté et la laïcité pour aboutir au système actuel. C'est dans le cadre de ce paradigme que je voudrais essayer de préciser maintenant les enjeux couvrant la question de la laïcité. Des enjeux multiples. Vous savez ce qu'est un enjeu ? C'est ce qu'on gagne ou qu'on perd dans un pari. L'enjeu est donc propre à une situation où l'on a parié. Et là, nous avons parié sur la liberté et la laïcité. Ce que l'on parie, c'est que la liberté pour chaque individu, mais la liberté pour les cultes, dans les groupes, et la neutralité de l'État vont permettre de pacifier les relations sociales et les pratiques religieuses. De fait, et malgré les esprits chagrins, la laïcité à laquelle je crois une immense majorité de nos concitoyens est attachée apporte tous les jours des solutions pacifiques à ce qui pourrait n'être sinon qu'un combat incessant d'individus et de communautés. Cela ne signifie pas que tout est réglé, et les rapports annuels de l'Observatoire national de la laïcité, dont le rapporteur est un ami, moi, Nicolas Cadel, insistent chaque année sur la nécessaire vigilance des autorités et les efforts qu'il faudrait faire pour modifier certaines de nos règles. À cet égard, trois enjeux me paraissent mériter attention. Un enjeu que je dirais proprement culturel, un enjeu politique, et puis évidemment un enjeu européen. Le premier enjeu, il est proprement lié aux religions et se situe sur ce terrain. C'est qu'en effet, les religions ne sont pas des croyances. Elles ont des modes d'expression sociale. Et le principe de laïcité protège donc tant l'affirmation individuelle que sociale des croyances. Mais actuellement, de nouvelles situations se présentent à nous qui, contrairement à l'espoir de la fin du XIXe siècle, pensant que la religion, avec le rouet et l'âge de guerre, rejoindrait les petits musées ethnologiques, font de l'affirmation religieuse un acte social redevenu significatif. Alors d'abord, par rapport aux religions traditionnelles, depuis le XIXe siècle, on a vu apparaître des religions nouvelles, ou plutôt des formes renouvelées de religions anciennes. Depuis les multiples dénominations évangéliques jusqu'à des mouvements sectaires, la gestion du fait religieux ne peut plus se limiter aux anciennes églises consacrées par l'histoire. On avait cru d'une certaine manière, notamment dans les années 60, que Dieu était mort, signé Nietzsche. Mais on s'aperçoit que Nietzsche est mort, signé Dieu, et que les formes religieuses n'avait pas disparu, mais s'était renouvelé. D'où des revendications et des pratiques qui débordent largement les institutions traditionnelles. Plus même, si j'en crois l'expression du philosophe Marcel Gaucher, le lion s'est retourné. Ce qui était de l'ordre de l'intime, la croyance, la sexualité, le sentiment d'appartenir à un groupe, est devenu une caractéristique de l'extérieur, est devenu une caractéristique visible. On fait de ces caractéristiques autrefois discrètes, d'être chrétien, homosexuel ou régionaliste, un lieu de constitution de la personnalité sociale. D'où des revendications fréquentes aujourd'hui sur la nourriture, l'habillement, les moments de dévotion, les lieux et un certain nombre de pratiques qui, bien sûr, concernent les libertés individuelles, mais qui se démultiplient aujourd'hui et offre un kaléidoscope inattendu des appartenances sociales. Ces renouvellements religieux prennent souvent l'allure de la défense d'une tradition. Alors évidemment, dans un monde inquiet et inquiétant, le retour des traditions peut apparaître comme une sécurité. Si l'expression abstraite intellectuelle dogmatique des religions n'est ni nouvelle ni menaçante, en revanche, dans une situation de large transformation, est indéniablement un facteur de conflit. Aussi faut-il essayer de comprendre les actions des multiples groupes qui se lèvent pour imposer des lectures du monde profondément traditionnalistes ou ce qu'ils croient être la tradition et qui est en général une réinvention tout à fait contemporaine de ce qu'on croit être une tradition. Il suffit de voir aujourd'hui les combats d'arrière-garde contre la pédagogie de l'égalité à l'école entre garçons et filles, où nous régressons. Il suffit de voir les explications scientifiques menacées par ce qu'on appelle la théorie de l'évolutionnisme, qui est tout sauf une théorie. Et dans ce cadre, si vous voulez, parmi d'autres, la place de l'islam est intéressante. Religion longtemps oubliée, méprisée, c'était la religion décolonisée, elle tente aujourd'hui de trouver une place dans des conditions souvent contradictoires. Imam provenant de l'étranger, formation théologique faible, effet de repli des populations concernées, d'où un certain succès du rappel des traditions, quelquefois purement inventées, comme par exemple l'habillement. Et on voit bien dans des enquêtes sociologiques qui ont été menées que la tradition est en fait un objet de manipulation quotidienne. Que ce soit l'habillement, la nourriture, ou que ce soit l'assistance à un moment de prière, la tradition a bon ton. Je vous donnerai simplement un petit exemple sur la nourriture, puisque l'une de mes collègues a fait un ouvrage tout à fait intéressant sur le halal. Ben, on comprend tout quand on sait qu'en arabe, halal veut dire permis. Entre le défendu et l'obligatoire, il y a le halal, c'est neutre. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu? L'obligatoire. Mais halal ne veut pas dire obligatoire. C'est pour ça que le prophète dit, quand vous êtes avec les gens libres, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, vous pouvez manger avec eux, c'est halal. C'est permis. Regardez le sens aujourd'hui des boucheries halal. C'est exactement le contraire. Ceux qui se séparent des autres. Donc, évidemment que la laïcité n'a rien à dire sur le contenu des religions et des croyances, pourvu que les règles de la République ne soient pas contredites. Mais si l'autorité publique ne peut pas se mêler de théologie, ni de formation, ni de culte et de pratique, il faut, du moment qu'elle ne trouve pas en public, il faut pourtant qu'elle se préoccupe de la vie sociale de tous les jours. Or, en matière de liberté publique, je le rappelle, la liberté est le principe, et la contrainte est l'exception, ce qu'on apprend même dès la première année de droit. La liberté dans ce pays est le principe, et la contrainte n'est que l'exception. Donc, cela explique l'échec pour le moment, dans notre Parlement, de projets de loi délirants qui voudraient enfermer dans des étroites bornes l'expression religieuse alors qu'elle ne menace pas l'ordre public. Par exemple, on nous invente aujourd'hui l'extension de la neutralité à toutes les personnes, y compris les mamans accompagnatrices de groupes scolaires. Or, elles ne sont pas des agents publics, elles n'effectuent pas le service public, elles sont donc libres, comme chacun d'entre vous, de s'habiller comme elles le veulent. Il faut donc que les laïcs ne succombent pas à cette surenchère qui fait bon marché avec le statut des libertés dans notre pays. Et c'est justement l'objet du deuxième enjeu. Le deuxième enjeu qui est politique. Bien sûr, on savait que religion, ça voulait dire relégérer, relire. Les protestants en savent quelque chose. On ne fait que lire et relire des textes pour élaborer notre propre compréhension. Mais religion veut dire aussi religarer, relier, c'est-à-dire rassembler, constituer un corps. Et alors, c'est là où la question politique apparaît, parce que dans notre pays, il n'y a pas de corps politique séparé de l'ensemble de la nation. Il faut cet état que les positions, il faut dire, pardon, cet état que les positions des politiques les plus traditionnelles sur la religion et sur la cité ont bien changé depuis 1905. Et même une sorte de grand écart s'est ouvert depuis le début du XXIe siècle. En 1905, les choses étaient claires. Politiquement, la gauche était laïque, ou les laïcs étaient à gauche. Et ils étaient anticléricaux pour défendre la République, pour défendre la liberté d'expression. Alors qu'à droite, on était critiques. On était favorable à la place de l'Église catholique, voire même à un retour à des institutions traditionnelles ou démocratiques, si on le pouvait. En 2019, le paysage a complètement changé. Nous ne sommes plus dans cette gauche laïque contre une droite non laïque. La droite classique, qui pourtant continue de défendre la religion catholique, notamment à propos de l'école confessionnelle, on n'a pas oublié quand même la grande manifestation en 1984 pour défendre l'école libre contre le service public national qui était proposé. Eh bien, cette droite classique, elle s'est découverte au tournant de ce siècle un goût curieux par dit républicanisme pour la laïcité. Discours du président Chirac, commission Stasi, puis vote de la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école, bref, tout un ensemble de mesures qui sont supposées défendre la laïcité. Et l'extrême droite, qui a longtemps flatté le conservatisme ultra-catholique, dans des formes que la paroisse Saint-Nicolas de Chardonnay représente bien à Paris, s'est découvert tout d'un coup, dans sa lutte contre l'islam et les étrangers, un étrange goût pour la laïcité, qui est en fait une manière de lutter, semble-t-il, contre les immigrés, contre l'entrée des réfugiés et de flatter le sentiment de petits blancs racistes. Et on comprend que dès lors, un certain nombre de nos contemporains sont complètement perdus dans ce changement du paysage politique. À gauche, c'est presque un mouvement inverse qui s'est produit. On a abandonné, surtout dans les franges extrêmes de la gauche, le combat pour l'unité populaire, et on a vu se développer une conception de la laïcité qui est en réalité une contrainte de plus, sous prétexte de lutter contre les formes qui évidemment appartiennent à l'islam, de traditionnalisme. D'où une sorte de laïcisme, j'oserais presque dire de l'élgardisme, qui, loin de permettre la réunion des Français, ne fait qu'attiser des divisions. Donc la laïcité est en train de redevenir un combat politique, mais pas de la même manière qu'il y a un siècle, et souvent à front renversé. D'où la confusion de beaucoup de nos contemporains sur ce qu'est la laïcité. Notamment les lois sur la vie en société qui se sont multipliées depuis les années 80 me paraissent être les nouvelles lois laïques. Les lois sur la sexualité, sur la famille, sur la mort, actuellement celles qui sont en débat sur la procréation, sont justement des lois qui nous rappellent qu'il n'y a pas de vérité religieuse qui doit être respectée dans la législation de la République, et que ce qui doit être respecté, c'est la liberté, pour autant que je trouve par ordre public, de chacun des individus et des groupes. Or, voyez comment on réattise les groupes les plus traditionnalistes, qui quelquefois même dans des formes violentes, ont refait leur apparition contre l'adoption de ces textes, ayant par ailleurs dénoncé de nouvelles pratiques qui leur paraissent insupportables. C'est qu'à l'effet, on nous resserre la vieille recette que l'homosexualité, que choisir le moment de sa mort, que la procréation, alors qu'elle n'est pas faite sur un mode tout à fait naturel, serait contraire. Alors on n'ose pas dire à Dieu. Même les catholiques disent que c'est contraire à la nature. Que donc, évidemment, pour parler comme dans Tartuffe, de Dieu, on ne parle pas une fois détourner la nature. Puisque la nature a décidé que deux hommes ne pouvaient pas vivre ensemble, ou deux femmes, la nature a décidé qu'on ne pouvait pas avoir d'enfant, alors qu'on est dans un couple, on ne peut pas l'avoir. La nature a décidé qu'on ne pouvait pas choisir au moment de sa mort si on a le sentiment qu'on n'a plus le désir de vivre. Voilà autant de lois contemporaines qui, pour moi, s'inscrivent dans l'idée de la liberté de chacun de choisir la vie qu'il veut mener, pourvu qu'il ne trouble pas l'ordre public. Donc, la question de la laïcité, c'est-à-dire le choix par chacun de ses croyances et de son mode de vie, redevient une question vive, forcément conflictuelle, dans des conditions très différentes de celles de 1905. Or, je rappelle à nouveau que dans notre législation, la liberté est le principe et la contrainte, l'interdiction est l'exception. Tous les exemples peuvent le démontrer. Aussi me semble-t-il qu'il faut aujourd'hui sauvegarder l'essentiel de cette loi, notamment les deux premiers articles, qui ne devrait pas être abîmé comme c'est proposé par des amendements conjoncturels qui ne servent qu'à des combats limités et à courte vue. D'où, me semble-t-il, la nécessité d'un effort intense de formation et d'information qui doit être développé et auquel nous pourrons tous participer, individuellement, dans les écoles, dans les associations, dans les administrations et même dans les temples, avec une exposition sur la laïcité. Mais à condition qu'elle soit connue, qu'elle soit développée, qu'elle soit parlée, si je veux dire, à l'extérieur. Nous sommes tous responsables de l'avenir à travers la laïcité, de la paix républicaine. Reste enfin, et j'en aurai terminé, un dernier enjeu qui est l'enjeu européen. La France a résolu à sa manière en 1905 la législation concernant la religion et sa place dans la société française, notamment par rapport à la République. Et encore, qui n'est pas parfait, c'est moins que l'on puisse dire. Mais elle fait aussi partie d'un ensemble qu'elle a choisi démocratiquement d'adopter, et qui est l'Europe, où déjà une partie d'autres solutions est proposée. Mais il faut le dire, dans l'assainissement général des Français. D'abord, je voudrais rappeler, contrairement à ce qui est dit par ceux qui n'ont rien lu, que l'organisation des églises dans notre pays, donnée par le droit français, et notamment la loi de 1905, et qui est donnée exclusivement par le droit français, et par cette loi, n'a rien à demander au droit européen. Contrairement aux mensonges que vous entendez quotidiennement, que l'Europe menace la laïcité française, qu'elle va imposer son système propre, notamment le système voulu par le Vatican, que donc la laïcité à la française est condamnée, il faut rappeler qu'en matière d'organisation religieuse, l'Union européenne n'a aucune compétence. Au nom d'un principe qui est facile à comprendre, et qui est le principe de subsidiarité. Ce que l'échelon local peut faire bien, il n'est pas nécessaire que l'échelon qui est au-dessus le fasse. Et c'est dit en toutes lettres dans le traité, le dernier que nous avons signé à Lisbonne en 2007. Et cela se comprend. Comment voulez-vous unifier 27 États qui n'ont pas la même conception de la place de la religion dans la société? Certains États ont des églises d'État, c'est le cas, même si elle est sur le point de partir de la Grande-Bretagne, c'est surtout le cas de la Grèce, c'est le cas de Malte, c'est le cas de Danemark, où l'église est une église protestante catholique d'État, avec des culottes des pasteurs payés par l'État, avec une organisation scolaire liée à la religion. Puis vous avez des États avec des églises préférentielles. C'est-à-dire qu'ils se disent laïcs, comme l'Espagne, le Portugal ou l'Italie, mais signent le concordat avec le pape. Vous avez des États, c'est le cas de la Belgique, où on reconnaît toutes les églises. Des fois qu'on a oublié, on a même créé une église franc-maçonne, pour être sûr qu'on ne saurait pas oublier ça. Et puis vous avez la France, qui a fait la rupture avec les églises et qui les laisse dans le champ où elles peuvent fonctionner, qui est le champ de la société civile. Puis vous avez des églises officiellement séparées, mais qui en sous-main décident, c'est le cas de la Pologne. Autrement dit, il est impossible d'imaginer un système unique dans une Europe qui a connu et qui connaît tellement de différences dans l'organisation des collectivités, on va dire, des communautés religieuses. Donc l'Union européenne n'a aucun droit sur l'organisation des églises, peut rentrer en paix. L'Église réformée ne peut pas subir quoi que ce soit de la part de l'Union européenne. En revanche, l'Europe est compétente pour faire respecter la liberté. Ça, c'est dans les traités que nous avons signés. La liberté qui est organisée par des chartes des droits fondamentaux, aussi bien la charte du Conseil de l'Europe que la charte propre à l'organisation de l'Union européenne, avec des cours de justice. La Cour de Strasbourg, la Cour de Luxembourg. Depuis plus d'un demi-siècle, la Cour européenne des droits de l'homme a fourni une abondante jurisprudence sur la liberté religieuse. avec des arrêts importants, y compris dernièrement à Luxembourg, sur la possibilité de porter des signes religieux dans les entreprises. Mais qui connaît cela? Quels sont les Français qui savent ça? Oui, on va à Strasbourg, on ne sait pas ce que ça veut dire, on va à Strasbourg, on ira plaider à Strasbourg. Mais est-ce qu'ils savent qu'il y a tout un corpus déjà précis, relativement cohérent, sur le régime de la liberté religieuse européenne? Les Français, qui sont malheureusement très peu européens, ne connaissent pas ces règles et les solutions qui pourtant les concernent directement. Aujourd'hui, si vous aviez un problème avec votre employeur et que vous veniez me voir, je vous dirais, bon, attendez, on va regarder ce que dit la Cour européenne, si on peut défendre votre cas devant la Cour européenne, parce qu'on va faire tous les tribunaux de France et de Navarre, mais in fine, c'est la Cour de Strasbourg, de Luxembourg qui décidera. Donc, il faudrait être au minimum européen, d'abord pour connaître cela, pour l'intégrer et dire qu'il n'est pas parfait, qu'il faut y participer, que ça fait partie aujourd'hui du nouveau challenge que de participer à une législation internationale, mais qui n'est pas extérieure à notre système démocratique et qui est le système européen. Donc, l'Europe est aujourd'hui un enjeu, à mon avis, pour la laïcité. Non pas qu'elle menace la laïcité, mais parce que les propositions qu'elle fait pour 27 États différents doivent respecter les particularités, parce que la liberté de croyance en Angleterre, quand elle est encore européenne, n'est pas la même qu'en Allemagne, en Italie ou en Grèce, elle ne parle pas de la Pologne, de Malte, de Chypre et du Portugal, et de l'Irlande. Autrement dit, on doit respecter des formules qui ont été nées, qui sont nées dans l'histoire, qui ont été consacrées par l'histoire, mais il faut essayer de les rapprocher. Ce qu'on oublie, c'est que le traité européen ne fixe pas dès maintenant toutes les solutions, il prépare les solutions de demain. Et donc, si nous sommes absents, nous le paierons de cette absence. Et je crois qu'il y a là un enjeu considérable dont il faudrait que les jeunes générations, en tout cas, se saisissent. Pour conclure, donc, il est clair que la laïcité, dans son histoire, comme dans ses enjeux, est toujours une question présente dans notre société. Mais elle est moins, me semble-t-il, aujourd'hui, une affaire des sommets de l'État, ceux qui nous gouvernent. Mais désormais, elle est une question pour chacun de vous comme citoyen. Je vous remercie. Thank you.